Yes, I'll vote staying in.
Oui, je vais voter pour rester dans l'Europe. Quand vous faites partie d'un ensemble, d'une grande communauté, il peut y avoir des frictions, mais vous êtes quand même plus fort quand les temps sont difficiles.
Nous sommes la cinquième économie mondiale. Nous pouvons faire sans vous. Vous avez besoin de nous. Nous importons plus en Europe que nous exportons. C'est pour ça que nous sommes plus importants pour l'Europe que l'Europe ne l'est pour nous.
Le drapeau britannique est en berne à Westminster aujourd'hui et devant Buckingham Palace. Hier, une députée travailliste qui faisait ardemment campagne pour le Remain, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, a été poignardée par un déséquilibré proche des milieux d'extrême droite. Cet homme a aussi utilisé, semble-t-il, le slogan « Britain First » qui est l'un des mots d'ordre de ceux qui souhaitent quitter le navire européen. Les enquêteurs se refusent encore à parler d'un crime à mobile purement politique. En tout cas, la campagne pour le référendum est suspendue. Après la mort de Joe Cox, les meetings et les polémiques devraient toutefois reprendre assez rapidement puisque le vote, le référendum, est prévu jeudi prochain, mais peut-être avec moins de violence que précédemment, car il faut bien le dire, le Royaume-Uni s'est littéralement déchiré pendant ces dernières semaines autour de cette question. Dans les familles, au sein du gouvernement, au cœur même des différents partis politiques et bien sûr dans les milieux professionnels, personne n'a vraiment la même opinion sur le Brexit. Au point que David Cameron, le Premier ministre Tory, a été contraint d'offrir à son parti, à ses députés, à ses ministres, une liberté de parole totale sur le sujet. Beaucoup s'en sont saisis. En face, même l'attitude offerte aux travaillistes, leur patron Jeremy Corbyn, saisissant lui-même le clan divisé et ayant choisi de faire campagne pour le Remain à contre-cœur puisqu'il aborde le libéralisme qu'incarne à ses yeux Bruxelles. Et puis dans le milieu des affaires, on va le voir, c'est également la division qui domine, Brexit, la question qui déchire le Royaume-Uni. C'est un reportage signé Annabelle Crolly. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir en studio Nicole Fontaine. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors vous êtes juriste de formation, vous avez été députée européenne, élue d'abord en 1984, puis bien sûr présidente du Parlement européen de 1999 à 2002, date à laquelle vous devenez ministre du gouvernement Raffarin. Je vais citer un livre qui a un rapport direct avec notre question ce soir, le Brexit, ou plus exactement Brexit, une chance, point d'interrogation. C'est un livre que vous avez coécrit avec François...
Et repenser l'Europe.
Oui, et repenser
je
l'Europe.
Tiens beaucoup.
Alors ça, c'est le sous-titre, mais...
Oui, mais...
Bon. Donc ça date Brexit, une chance, point d'interrogation, et repenser l'Europe.
C'est une chance de repenser l'Europe.
D'accord. Donc, c'est écrit avec François Poulet-Matisse, et c'est un livre qui vient donc vraiment de paraître aux éditions Attias. Et nous sommes avec l'économiste Benjamin Coriat. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre du collectif des économistes atterrés, professeur d'économie à l'Université Paris 13. On peut citer un ouvrage des économistes atterrés, « Changer d'Europe au lien qui libère ». Nous sommes aussi avec Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir Tara.
Alors vous étiez la semaine dernière outre-Manche pour ce reportage. On l'a beaucoup dit ces derniers jours, les sondages donnent une légère avance au Brexit. Pendant la campagne, il y a des personnalités qui ont pris justement des risques pour rejoindre ce camp du Leave, alors que l'establishment londonien était massivement pour le maintien de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni, au sein de l'Union européenne.
Alors, dans le camp du IN, des personnalités importantes du monde des affaires ont appelé à rester dans l'Union européenne. Vous avez Richard Branson, l'entrepreneur milliardaire, l'ancien patron de Virgin, Lord Sugar, le célèbre entrepreneur et vedette de l'émission The Apprentice, Jamie Dimon, le patron de la banque d'affaires JP Morgan, ou encore Paul Polman, le PDG d'Unilever. Plusieurs entreprises ont même communiqué avec leurs employés pour insister sur les enjeux du référendum. C'était le cas chez Rolls-Royce, Airbus, HSBC, Microsoft, et plus rare en effet, les entrepreneurs à soutenir le Brexit. Mais plus forts ont porté leur voix, comme celle de James Dyson, le créateur de l'aspirateur du même nom. Il soutient le Brexit, qualifiant les mises en garde d'une possible guerre commerciale de foutaise. Et puis, il y a eu la déclaration de John Longworth, le directeur général de la Chambre de commerce britannique. C'était en mars dernier, lors d'une visite dans la capitale britannique du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. John Longworth déclarait officiellement qu'il voterait pour la sortie de l'Union européenne.
Alors d'ailleurs, Annabelle, ça lui a valu de démissionner de son poste de directeur général de la Chambre de commerce britannique. Tout de suite après, il a accusé David Cameron, le Premier ministre, d'avoir directement fait pression sur lui. Trois mois plus tard, vous l'avez rencontré, Annabelle, sa détermination n'a pas faibli John Longworth.
Actually, the European Union has been bad for Britain.
En réalité, l'Union européenne est néfaste pour le Royaume-Uni. Le marché commun avait plutôt bien fonctionné pour nous, mais le marché unique est un problème. C'est une union douanière protectionniste. Les études montrent, et en particulier celle de Civitas, que, en dehors du Luxembourg, le Royaume-Uni est le pays qui a le moins tiré profit de l'Europe. Les pays gagnants ne sont même pas dans l'Union européenne, à l'instar des États-Unis. Cela nous a coûté beaucoup d'argent au Royaume-Uni. Notre contribution nette annuelle est actuellement de 10 milliards de livres et selon le Trésor britannique, le coût des réglementations européennes pour notre économie serait annuellement de 125 milliards de livres. Si on prenait seulement 10% de cette somme, plus la contribution annuelle, on ajouterait instantanément 1,1% de croissance au PNB britannique. Même en l'absence d'accord économique, ce serait gagnant pour le Royaume-Uni. Notre économie est une économie de services à 75%, or le marché unique des services n'existe pas vraiment, à l'exception peut-être du marché interbancaire. Qui plus est, la sortie de l'Union européenne nous permettrait de négocier nos propres accords commerciaux alors que l'Union européenne s'est montrée très peu performante pour cela. Et c'est bien naturel car négocier un accord au nom de 28 pays, c'est une entreprise très difficile, un peu comme essayer finalement de faire bouillir la mer. Négocier pour une seule économie, c'est à l'évidence beaucoup plus simple. Autre point négatif pour le Royaume-Uni, la question de la main-d'œuvre à bon marché en provenance de l'Union européenne, elle a réduit les salaires, la productivité et le niveau des qualifications. Bilan, 500 000 de chômeurs, des salaires qui, au lieu d'augmenter, ont diminué, un manque d'incitation à accroître la productivité dans les entreprises en raison de la présence d'une ressource illimitée de main-d'œuvre bon marché. Cette politique est bien sûr soutenue par les multinationales et les institutions européennes parce que l'Union européenne convient très bien à l'élite européenne. Elle dépense chaque année des centaines de millions de dollars en lobbying pour acheter le système à Bruxelles, pour que la réglementation leur soit favorable, pour écarter leurs concurrents et pour ne pas payer d'impôts en Europe. Les institutions de l'Union européenne sont financées par l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne. Et c'est pour cela qu'ils soutiendront toujours ces politiques, car leur salaire, leur position et leur pouvoir, ainsi que leur pension de retraite en dépendent. Les élites du Royaume-Uni, comme les autres élites européennes, finissent souvent leur carrière dans le privé et se voient offrir des sièges dans les conseils d'administration des multinationales où elles peuvent continuer à exercer et partager leur influence. L'économie de l'Union européenne est en réalité une économie en déclin. Elle ne représente plus que 17% de l'économie mondiale, au lieu de 30% auparavant, et elle nous entraîne dans sa chute. Nous serions mieux tout seuls.
Pourquoi avoir démissionné de la Chambre de commerce britannique ?
Nous étions sous la pression de notre gouvernement et je n'étais pas d'accord avec cela. La Chambre de commerce britannique voulait rester neutre et moi j'étais d'avis que nous devions prendre position et j'avais fait savoir dès le début que j'étais déterminé à démissionner au nom de ce qui m'apparaissait le plus important, à savoir la liberté de parole.
Où en est la campagne aujourd'hui ?
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, y compris de célèbres businessmen comme Anthony Bamford de JCB ou Sir James Dyson des aspirateurs Dyson qui ont pris parti pour le Brexit. Beaucoup d'entreprises ont été menacées d'être écartées des marchés publics et ont signé pour le Remain. Elles ont été récompensées par des contrats publics. Ce que je voudrais dire aux Français, c'est que leur pays, que j'aime énormément, a été partiellement désintégré par l'Union européenne, qui est non démocratique, corrompue et corruptrice. Et je pense que le Brexit sera une lumière dans la nuit pour les autres peuples de l'Europe qui veulent réformer l'Union européenne. Et s'ils n'y parviennent pas, qu'ils la quittent aussi, car le message des élites européennes, c'est comme celui de Marie-Antoinette à qui l'on disait que le peuple avait faim. Elle répondait, eh bien qu'ils mangent de la brioche.
La classe politique est aussi très divisée sur la question du Brexit. Et les conservateurs au pouvoir sont les premiers à en faire les frais. Le Premier ministre David Cameron, suivi par la grande majorité de son gouvernement, mène la campagne pour le Remain, rester dans l'Union européenne. Mais il a laissé à ses ministres leur liberté d'opinion sur le sujet et quatre d'entre eux militent pour le Leave, quitter l'Europe. Un camp mené par l'ancien maire conservateur de Londres, Boris Johnson. À la Chambre des communes, la fracture est encore plus grande. Près de la moitié des députés militent pour la sortie. Le Parti travailliste, lui, fait campagne pour rester. Quelques voix dissonantes se sont fait entendre, mais c'est surtout son leader, Jeremy Corbyn, qui est la cible du camp des pro-Brexit. Eurosceptique notoire, sa campagne sonne faux, estime-t-il. Dans une lettre rendue publique, pour la campagne en faveur du statu quo « Britain Stronger in Europe », la Grande-Bretagne plus forte au sein de l'Europe, six anciens chefs du Labour, dont Tony Blair, sont venus apporter leur soutien dans la campagne. Gordon Brown, également ancien Premier ministre, est sur le devant de la scène. Ce soir-là, il prononçait un discours à la London School of Economics de Londres.
Bonsoir. Je voulais vous dire que c'est un vrai plaisir d'être ce soir avec vous à la London School of Economics et de pouvoir vous expliquer pourquoi le Royaume-Uni doit rester dans l'Europe. J'ai moi aussi été professeur d'université et je sais que l'université est connue pour son impartialité, son objectivité, la poursuite de la vérité, la connaissance, bref, toutes ces belles qualités que j'ai dû abandonner pour faire de la politique. Je veux pouvoir défendre ce soir l'appartenance du Royaume-Uni au sein de l'Europe. Vous convaincre que de rester dans cette Europe, c'est la meilleure façon de sécuriser nos emplois à venir. Et peut-être la seule façon de nous protéger des paradis fiscaux qui empêchent les États de trouver les ressources pour financer leurs services publics. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme, la meilleure façon de lutter contre l'immigration illégale, la meilleure façon de nous assurer de garder un niveau acceptable de droits sociaux et préserver notre environnement.
Après le discours, place au cocktail où le public est invité à rencontrer les professeurs et experts de l'université. Auteur d'une étude sur les impacts économiques d'un Brexit, Ian Begg, professeur d'économie à la London School of Economics, répond aux interrogations de Nancy, une retraitée londonienne.
C'était vraiment très intéressant d'entendre ses arguments. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il explique les choses vraiment clairement et l'on comprend mieux les enjeux de ce référendum. Je comprends mieux maintenant les forces et les faiblesses de l'Union européenne, ses bons et ses mauvais côtés. C'est vraiment très utile pour des gens ordinaires comme moi, comme beaucoup de gens. Même à Londres, je trouve que nous sommes sous-informés ou mal informés par les médias. Même si j'ai déjà fait mon choix, la grande question pour moi était de savoir pourquoi le Royaume-Uni devrait payer 50 millions de livres par jour pour rester dans l'Union européenne pour payer les salaires.
Il faut que je vous dise que 50 millions de livres par jour, c'est un mensonge.
Ah, vraiment? S'il vous plaît, dites-moi plus.
C'est un mensonge parce qu'actuellement, nous versons 14 millions de livres par jour.
Ah, ce n'est pas beaucoup, finalement.
Ceux qui font la campagne pour quitter l'Union européenne vous trompent délibérément. Ce chiffre que donne Boris Johnson n'était là que pour faire du buzz. Il nie le fait qu'une certaine personne, du nom de Margaret Thatcher, avait négocié un rabais il y a maintenant 32 ans. Et elle l'a obtenu. Et je peux vous assurer que ces chiffres-là sont aujourd'hui faux.
Oui, mais cet argent pourrait plutôt servir au logement social. Il y a un gros problème immobilier, particulièrement à Londres, et on ne fait rien. Alors le débat peut continuer longtemps. Bien sûr, si l'on reste dans l'Union européenne, ce serait utile pour influer sur les réformes nécessaires, sur la corruption, les gros salaires. Si on sort, on ne pourra plus rien faire.
Je voudrais revenir sur un point important, sur les fameux 350 millions de livres que nous versons chaque semaine au budget européen. qui en fait ne sont que 280. Ils passent leur temps à promettre que nous pourrions verser ce budget sur notre système de santé. Mais là encore, il faut espérer que notre économie ne décline pas, parce qu'alors, il n'y aurait plus rien à reverser. Ce budget, il s'envolerait.
Ah bon? D'accord, c'est intéressant.
C'est quelque chose que l'on ne vous dit jamais quand on vous parle de ces chiffres. C'est le paradoxe d'ailleurs de cette campagne. On vous dit, le Royaume-Uni se porte bien, alors nous pouvons nous passer de l'Union européenne. Vous ne trouvez pas ça bizarre?
Si, un peu, c'est vrai. Mais le problème, c'est que l'Union européenne ne fait aucun effort pour comprendre que garder notre souveraineté est quelque chose d'important pour nous. Ils sont têtus, vraiment, ils sont têtus, hein.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. You'll have me when I'm on my knees.
Les entreprises britanniques, dans leur ensemble, sont globalement favorables au maintien dans l'Union européenne, qu'elles jugent plutôt dans leur intérêt. Mais l'inquiétude s'installe dans les salles de marché de la City de Londres. La City, première place financière mondiale, pourrait perdre sa place dominante en Europe. L'enjeu est énorme pour l'économie britannique. Le secteur bancaire représente 450% du PIB du pays. 500 banques et assurances sont présentes à la City de Londres, qui emploie près de 350 000 employés. Des employés, cadres et directeurs réduits au silence dans cette campagne. Seuls les PDG, comme celui d'HSBC, JP Morgan ou encore la Banque d'Angleterre, ont fait connaître leur point de vue. Tous estiment qu'une sortie de l'Union européenne menacerait la croissance, l'emploi, le taux de change de la livre et l'immobilier. Moins catastrophique et plus ouvert, le monde des start-up londoniens de la Tech City plaide aussi pour un maintien dans l'Union européenne. Albin Servian, directeur général du groupe du site Easy Roommate et Apartagé.com en France.
Si on prend une perspective globale et qu'on regarde la scène de Londres, en fait, on s'aperçoit que Londres, c'est devenu une capitale pour les start-up en Europe. Et depuis 2010, il y a à peu près 10 milliards de pounds qui ont été investis dans les start-up au global, pour développer des sociétés qui vont changer la donne. C'est des sociétés comme Deliveroo ou TransferWise, enfin, c'est vraiment au cœur de l'innovation. Donc c'est un mouvement qui est très fort, qui est générateur d'emplois pour l'Europe, et Londres, l'Angleterre, est en tête de pont pour ça. Donc moi j'ai trois commentaires. Le premier, c'est que le risque du Brexit, oui, ça peut avoir un impact très négatif. Pourquoi ? Parce que ces investissements dans des start-up, beaucoup qui sont faits en Londres, sont signes d'emploi pour l'Europe. C'est un premier point. Deuxième point, je dirais que compte tenu du fait de la situation géographique de Londres aussi, on voit que les investissements qui sont faits, notamment des États-Unis vers l'Europe, se font via Londres. Donc le risque pour Londres, c'est d'être bypassé. Ça, c'est un deuxième point. Et troisième point aussi, c'est que c'est la libre circulation des employés au sein de l'Europe qui peut avoir un impact très négatif pour l'Angleterre. S'agissant du recrutement de talents en Europe. On voit beaucoup, il y a beaucoup de Français à Londres notamment. Donc ça, je dirais, c'est plus la perspective globale, et le fait que l'Angleterre ne fasse pas partie de ce marché-là européen est un problème pour l'Angleterre, comme est un problème pour la France, l'Allemagne et d'autres. Donc ça, je pense que c'est une situation qui est quand même très grave et très inquiétante. Si on regarde ça au niveau de la société, Easy Roommate, du jour au lendemain, il n'y aura pas d'impact négatif. On est dans 24 pays. C'est souvent le trait de beaucoup de start-up ici, c'est qu'elles couvrent de nombreux pays et que l'Angleterre est une phase d'internationalisation pour beaucoup de start-up en Europe. L'impact ne va pas se voir du jour au lendemain, donc parce que si le vote est négatif, donc le 23 juin, il va y avoir des négociations pendant de longues années. Donc ça va avoir un impact sur l'économie au global. On peut, je pense, estimer qu'il y aura un ralentissement. Ça va avoir un impact pour l'Angleterre et de facto pour l'Europe. Néanmoins, ça ne va pas avoir un impact le 24 juin matin. Donc, il y aura beaucoup de traités de renégociation qui seront très durs et qui, paradoxalement, ne seront pas forcément favorables à l'Angleterre, notamment compte tenu du fait que le deal obtenu par Cameron actuellement est excellent vis-à-vis de l'Europe. Paradoxalement, dans le milieu tech, on ne sent pas d'inquiétude. Je pense que le risque, il est plutôt au niveau de plus grosses sociétés, des banques ou des sociétés qui auraient éventuellement envie de bouger leur siège, ou là il peut y avoir un impact, c'est vrai. Pour ce qui est de la tech, comme toujours, un entrepreneur il va s'adapter. On voit un mouvement actuellement d'entrepreneurs de Londres vers Barcelone, qui est un écosystème qui est tout aussi dynamique, moins cher, au bord de l'eau, etc., etc. Donc je pense que le risque il est plus sur des grosses sociétés et moins sur des start-up tech qui de toute façon s'adapteront à l'environnement quel qu'il soit. Je ne pense pas que le Brexit soit différent d'un autre événement qui sera impactant pour une start-up.
Au sein du groupe, ce sont plus de 21 nationalités qui sont représentées. Depuis les bureaux de Soho à Londres, les employés se sentent très concernés. Les Français s'inquiètent de savoir si un Brexit pourrait changer leur situation, devront-ils demander un visa ? Et les ressortissants du Commonwealth, qui voteront eux pour ce référendum, sont aussi divisés. Nous avons rencontré Benita, indienne, qui votera pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, et Paul, sud-africain, qui lui votera pour en sortir.
Yes, I'll vote staying in.
Oui, je vais voter pour rester dans l'Europe. Pour moi, le plus important, c'est que tous les gouvernements restent ensemble pour prendre des décisions au sujet de l'environnement et des aides sociales. Et je ne fais pas confiance au gouvernement anglais pour qu'il le fasse tout seul. Je souhaite que l'Europe prenne part aux décisions, même si j'entends qu'il y a des problèmes de bureaucratie, de paperasserie administrative et qu'il faut du temps pour prendre des décisions. Mais bon, quand vous faites partie d'un ensemble, d'une grande communauté, il peut y avoir des frictions, mais vous êtes quand même plus fort quand les temps sont difficiles. Vous pouvez trouver du soutien. Vous avez aussi besoin que d'autres pays et d'autres gouvernements soient à vos côtés. Pour moi qui suis des Commonwealth, je ne suis pas directement concernée par rapport à ma présence ou pas dans le Royaume-Uni. Égoïstement, je dirais que si j'en crois la presse, et je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou faux, le marché de l'immobilier pourrait s'effondrer. Bon, alors comme je suis propriétaire de mon logement, je n'ai pas envie qu'il perde de sa valeur. Si on parle de l'immigration, alors là, je m'en fiche complètement. Je suis moi-même une immigrante. J'ai toujours pensé qu'on doit laisser les gens libres de venir, qu'ils puissent utiliser leurs compétences, que ce soit pour des métiers peu qualifiés ou très qualifiés. Tout le monde doit pouvoir contribuer à sa manière. C'est ça la richesse d'une culture. Une communauté, pour moi, veut dire que des gens peuvent venir de partout avec leur propre culture et qu'ils vivent et travaillent ensemble. Voilà, donc je vais vraiment voter pour rester dans l'Europe.
Oui, je m'intéresse à l'Europe. Vous savez, je suis sud-africain. Et nous sommes en grosse compétition avec les Européens dans les entreprises ici au Royaume-Uni. En tant que membre du Commonwealth, j'ai l'opportunité de voter. Et je vais voter pour quitter l'Union Européenne. Je pense que ce sera mieux pour le Royaume-Uni, à cause de toute cette immigration légale qui peut franchir librement les frontières. Enfin, vous savez, moi, en tant que Sud-Africain, je souffre de ces différences. J'ai beaucoup d'obligations à remplir pour venir ici. Alors que tous ces gens de l'Union Européenne, eux, ils peuvent venir ici sans difficulté, demander des aides sociales. Vous savez, ils ont beaucoup plus de liberté. Nous avons vraiment besoin de nous battre pour y arriver. Certains d'entre nous ont de meilleures qualifications que les autres Européens, mais on ne nous donne pas aussi facilement les mêmes opportunités. Moi, ce que je souhaite, c'est l'égalité des chances pour des gens comme moi ou des Australiens pour obtenir les bons salaires qu'offre le Royaume-Uni.
Le poids de l'immigration légale et illégale pèse lourd dans ce scrutin. Et les 10 syndicats de salariés anglais ont uni leurs forces contre le Brexit. Simon Dubbins est le porte-parole de campagne de Unite the Union, le plus important syndicat du Royaume-Uni.
Sadly, the level of employment protection in the UK is extremely low.
Le niveau de protection de l'emploi au Royaume-Uni est extrêmement faible. Tony Blair vantait honteusement le Royaume-Uni comme le marché de l'emploi le plus dérégulé du monde occidental. Après le cauchemar de Margaret Thatcher, qui a attaqué sans état d'âme le mouvement social, Tony Blair n'a vraiment rien fait pour redresser la situation. Et donc la réglementation européenne représente pour nous un socle de droits sociaux d'une extrême importance. Par exemple, le droit de consultation en cas de plan de licenciement et le respect de délai des 45 jours. En cas de rachat par une entreprise, la protection des rémunérations des salariés en place et des pensions des salariés retraités, le fonds de pension maison, la protection des travailleurs indépendants, la protection des temps partiels, les congés parentaux, la réglementation du temps de travail qui accorde 4 semaines de congés payés pour la première fois. Il y a un tas de directives qui sont essentielles pour les salariés et qui, selon nous, seraient remises en cause immédiatement en cas de Brexit. Le problème est qu'on n'en parle pas dans les médias. Et nous avons toutes les peines du monde à expliquer à nos membres que ce sont les vraies questions de la campagne et qu'elles sont essentielles pour leur assurer une qualité de vie.
Avez-vous des problèmes en tant que syndicat anglais pour convaincre les salariés de rester dans l'Union européenne ?
Je ne vous ferai pas de mystère du fait que c'est difficile. Oui, bien sûr, ça l'est. Nos militants et nos délégués comprennent très bien la nécessité de rester et ils font de leur mieux pour diffuser le message. Mais nous nous sommes rendus compte que dans les usines, c'était difficile. Car il y a eu une très, très sale campagne qui a visé les immigrés. Une campagne xénophobe, raciste, et beaucoup de précaires, des temps partiels, des zéro-heures, sont dans une situation difficile et sont inquiets de leur sécurité et de leur avenir. Dans l'histoire, on sait que c'est facile pour les gens au pouvoir de prendre pour cible les étrangers. Et malheureusement, quand c'est tous les jours en première page des plus grands journaux et qu'à la télé, des politiciens font des commentaires vraiment odieux, créant la division et désignant des boucs émissaires, malheureusement, certains travailleurs, y compris parmi nos membres, écoutent ça et se laissent convaincre et c'est compliqué pour les faire changer d'avis. C'est une difficulté de leur faire comprendre ce qu'ils vont perdre et les dangers pour l'économie en cas de Brexit. On leur explique que les réelles raisons de leur colère actuelle, l'appauvrissement, l'insécurité, le sentiment d'être laissé pour compte, toute cette colère, le meilleur moyen de l'exprimer, ce n'est pas de quitter l'Europe, parce que ça n'y changera rien. Ils se font abuser par des gens qui ont des intérêts très précis et qui utilisent leur malheur à des fins politiques. Ils vont être très déçus car ils mentent aux gens.
En Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord, dans tout le pays, le référendum aussi divise jusqu'à tourner au drame, avec le meurtre d'une députée travailliste pro-Union européenne tuée par balle dans le nord de l'Angleterre. À une semaine du vote, même dans la très paisible campagne anglaise, le débat s'est invité dans tous les foyers. Dans son petit village près de Cheltenham, dans les Coast Walls, Alison nous a convié à son brunch du dimanche entre amis.
Nous sommes la cinquième économie mondiale. Nous pouvons faire sans vous. Vous avez besoin de nous. Nous importons plus en Europe que nous exportons. C'est pour ça que nous sommes plus importants pour l'Europe que l'Europe ne l'est pour nous.
Je crois comprendre que vous souhaitez sortir de l'Europe, Ken.
Oui, je suis pour sortir. Je pense que l'euro est voué à l'échec. La Grèce est en faillite, l'Italie ne va pas beaucoup mieux, l'Espagne et le Portugal se débattent dans les difficultés. Je ne sais pas trop pour la France, mais l'Allemagne, elle, profite de l'euro faible qui rend ses produits très compétitifs par rapport à tous les autres. En dévaluant la livre, nous deviendrons les plus compétitifs au monde.
Et en tant qu'agriculteur, vous pensez que ce serait mieux de sortir de l'Europe ?
Je crois que le gouvernement devra remplacer le système d'aide actuel. Et à l'arrivée, cela coûtera moins cher aux Britanniques de soutenir directement leurs agriculteurs sans passer par l'Europe.
Ah bon ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Mais parce qu'on paye pour les agriculteurs bulgares, tchécoslovaques, polonais, les Français. Et les Français ont de grandes surfaces agricoles. Et ils reçoivent les mêmes subventions par hectare que nous recevons. Et nous avons quoi ? À peine un quart de cette surface.
Excuse-moi, mais oublie un peu le nombre d'hectares et pense aux droits de douane. Les droits de douane nous coûteront autant que ce que l'Union européenne nous coûte aujourd'hui.
Mais je ne pense pas qu'il y aura des droits de douane parce qu'ils ont besoin de nous vendre leurs produits.
Mais si les Américains paient des droits de douane, pourquoi nous, petite Angleterre, on n'en paierait pas ?
Je ne sais pas, mais de toute façon, ce ne sera pas bien difficile à négocier.
Mais encore une fois, les coûts de ces droits de douane ne seront pas moins élevés que le prix que nous payons pour aider nos amis européens. Et avec une livre plus faible, ce qui sera inévitable, évidemment, nos produits à l'export seront plus compétitifs. Mais comme tu viens juste de le dire, Ken, nous importons davantage que nous exportons, alors le coût pour l'économie britannique sera plus lourd.
Oui, et bien malgré ça, je pense que l'euro est voué à l'échec de toute façon. Et donc, à long terme, la livre redeviendra plus forte que l'euro parce que l'euro est un vrai désastre. Moi, je ne pense pas à court terme. À court terme, ce sera un peu difficile. Mais à long terme, on s'en sortira mieux. C'est un choix pour nos petits-enfants.
Julian, que fais-tu dans la vie ?
Je suis le patron d'une petite entreprise informatique. Je vais voter pour rester dans l'Union européenne parce que je crois qu'une sortie du Royaume-Uni va tellement tout chambouler que l'on mettra trop de temps à s'en remettre. J'ai encore 10 ans à travailler. Je n'ai pas envie de perdre toutes mes économies dans tout ce chambardement. J'ai toujours pensé que nous pouvons avoir plus d'influence sur Bruxelles en faisant encore plus partie de l'Europe, mais pas si nous en sortons. Prenez l'exemple de la Norvège. La Norvège a un accord commercial avec Bruxelles. Elle doit respecter les règles européennes, mais elle n'a pas son mot à dire. Je pense qu'il serait complètement fou de nous mettre dans la même situation.
Et vous, Alison, vous savez ce que vous allez voter ?
Je vais voter pour sortir, ça c'est sûr. Parce que j'ai l'impression que l'Union européenne n'est pas assez démocratique et qu'elle est gouvernée par les grands groupes, les multinationales. Et les États-Unis. Il y a sans doute beaucoup d'autres raisons, mais pour moi, c'est avant tout pour des questions de souveraineté et de démocratie.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Brexit, la question qui divise le Royaume-Uni. Nous sommes toujours avec nos deux invités, l'économiste Benjamin Coriat et l'ancienne présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine. Une première question, et bien sûr nous sommes toujours avec Annabelle Grelier qui signait ce reportage qui a été réalisé par Annie Brault. Une première question à vous madame. À la fin du reportage, on entend donc cette dame Alison qui a accueilli tous ses amis chez elle et qui elle va voter, comme d'ailleurs la plupart des participants à ce brunch du dimanche, qui elle va voter finalement contre l'Europe. Et son principal argument, si on peut dire, c'est que cette Europe ne la fait pas rêver et elle parle d'une absence de démocratie, d'un déficit de démocratie. C'est une question qui est certainement l'un des ressorts du vote livre. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument ?
Oui, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour cet excellent reportage tout à fait passionnant et qui montre à quel point la Grande-Bretagne est profondément divisée. Et je pense que, quel que soit le résultat, certainement que cette campagne laissera des traces profondes.
On voit bien que ce n'est pas facile de se déterminer.
Oui, tout à fait, c'est un peu inquiétant. Alors, sur le dernier argument, pour répondre à votre question, dans l'ouvrage que nous avons publié, nous analysons avec lucidité les causes de la lente descente aux enfers de l'Union européenne. Et parmi ces causes, nous évoquons le déficit démocratique qui, effectivement, n'a pas été suffisamment comblé. Et je le dis avec d'autant plus de regret que, malgré le Parlement européen, malgré un Parlement européen dont le rôle, pourtant, a été croissant, qui, aujourd'hui, a véritablement son mot à dire dans l'élaboration des législations européennes...
C'est arrivé trop tard, vous voulez dire, justement, ce poids du Parlement ?
C'est arrivé, non, c'est... Je ne dirais pas que c'est arrivé trop tard, mais je dirais que les décideurs communautaires ont donné le sentiment aux citoyens qu'ils décidaient ce qui était bien pour eux sans les associer suffisamment à la construction de cette Europe. Dans une très grande absence de communication, de transparence. Je vais vous donner un exemple qui a fait très mal. En mai 2005, les Français et les Néerlandais, d'ailleurs, ont voté contre le projet de traité constitutionnel.
Le fameux non à Maastricht.
On peut le regretter. Moi, je suis de ceux, bien sûr, de celles qui ont regretté ce vote. Mais c'était un vote démocratique. Et quelques mois après, on a adopté pratiquement le même traité, finalement,
oui,
qui lui ressemblait comme un frère, en tout cas, par la voie parlementaire. Et ça a été vraiment ressenti par les citoyens comme un petit peu comme si on se moquait d'eux.
Oui, comme un désaveu.
Voilà, tout à fait.
Monsieur Coriat, là-dessus, sur ce déficit démocratique.
Non, mais je crois que c'est un des vrais problèmes de l'Europe. Hein. C'est incontestable. Alors, si on va au fond des choses chez les fondateurs... Il y avait cette idée que pour faire avancer l'Europe, il fallait que le droit d'initiative soit bien localisé. Et donc, on l'a mis au sein de la Commission. Et c'était un moyen de donner une capacité d'intervention non contestée, si on peut dire. Ça a plutôt bien fonctionné pendant une phase initiale. Moi, je pense qu'on comprend rien à l'Europe si on raisonne pas en phase. Hein. Il y a eu une phase extrêmement positive du déploiement de l'Europe. Moi, que je dirais aller jusque vers les années 70-80. Bon. À partir de ce moment-là, les difficultés se sont accumulées. Et on n'a pas changé la mécanique. Et on a gardé ce droit d'initiative à une poignée de gens, alors qui sont progressivement devenus des bureaucrates coupés de tout, etc. Et on n'a pas du tout rééquilibré avec les instances véritablement démocratiques que sont le Parlement,
bien sûr.
Voilà. Et on est resté là jusque très très tard. Et maintenant, il y a quelques domaines de codécision. Mais dans l'ensemble, l'initiative reste...
Il n'y a pas quelques domaines de codécision. Ah non, non, non.
Oui, il y a des domaines
de codécision.
Mais le droit d'initiative reste au sein de la Commission.
Ah oui, absolument.
Ah oui. Donc, je veux dire, tout ce que peut faire le Parlement, c'est approuver, ne pas approuver, mais il ne peut pas être à l'origine de choses nouvelles.
Ah,
c'est quand même très ennuyeux.
Ah, vous permettez de ne pas être d'accord. Non,
bon, là, on ne va peut-être pas rentrer dans la mécanique, mais bon, c'est vrai que le Parlement a de plus en plus de poids. Néanmoins, comme vous l'avez dit, Madame Fontaine, les opinions publiques ne se rendent pas forcément en compte à l'heure actuelle. Oui. Et effectivement, on a cette vision assez désincarnée, bureaucratique.
Je pense que c'est ça, parce que le Parlement européen, de par ses amendements et de par le fait qu'il représente qu'il est l'expression démocratique des peuples d'Europe, réussit à introduire dans les textes européens des modifications importantes. Le texte sur le roaming, on le doit au Parlement européen.
Oui,
absolument. Le rétablissement de la directive Bolkestein avec sa mesure de dumping social, on la doit au Parlement européen.
Donc il y a un peu de démocratie quand même dans l'Europe. Alors on va quand même rentrer dans le cœur finalement de notre sujet, c'est-à-dire le Brexit en tant que tel, avec des enjeux purement économiques. Benjamin Coriat, peut-on chiffrer le coût du Brexit ? On lit des choses qui vont du simple au quintuple presque. Est-ce que vous arrivez à chiffrer ce que ça pourrait coûter
au Royaume-Uni ? Non, très honnêtement, je pense que c'est pratiquement impossible. On a d'ailleurs, vous l'avez dit, des évaluations qui sont... extrêmement variables, hein, qui vont de 1,5 de PIB perdu par an à plus de 2,5, ou à l'inverse, on a même des évaluations positives. Bon, je pense qu'il ne faut pas accorder une très grande importance à ces évaluations. Malheureusement, la science économique n'est pas du tout en état de faire des évaluations chiffrées sur ce genre de choses. Alors, par contre,
est-ce qu'on peut quand même dire que ça va coûter? Au moins dans un premier temps.
Alors, il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer pour le Royaume-Uni, pour l'Europe.
Pour le
Royaume-Uni. Le reportage est tout à fait remarquable. Je m'associe aux compliments qui ont été faits, mais il est tourné sur la Grande-Bretagne. Hein.
C'était l'objet qu'on avait choisi.
Oui, bien sûr. Non, mais je crois que c'est essentiel en plus pour des auditeurs français qui connaissent pas du tout ou mal forcément les enjeux internes à la Grande-Bretagne. C'est indispensable. C'est deux discussions différentes. Bon, moi j'aurais tendance à penser, mais c'est les Anglais qui vont voter, hein, que pour la Grande-Bretagne, il y a beaucoup d'inconvénients. Hein, il y a beaucoup d'inconvénients. Et un inconvénient central, qui est que c'est une économie, on l'a dit, de service, mais surtout une économie largement centrée autour de la banque, de l'assurance, etc.
La fameuse place de la City.
Absolument, la place de la City. Et que cette place est si importante parce que les établissements installés à Londres disposent d'un passeport européen. C'est-à-dire que ça leur permet d'opérer non seulement en Angleterre, mais en Europe, dans les mêmes conditions que les établissements européens. Ils risquent de perdre ça. Donc ça va être extrêmement coûteux et ça va avoir une série de conséquences. Alors, bon, par ailleurs, il y aura d'autres conséquences, évidemment, dans différents domaines. Mais ça, c'est pas du tout un coup pour l'Europe. L'Europe, au contraire, risque de bénéficier de ça. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une relocalisation.
Si nos amis anglais vont moins bien,
qui sont en train de lorgner, clairement, sur le Brexit, sans oser dire qu'elles sont en faveur du Brexit. Mais la vraie discussion, je pense, c'est pas celle-là. La vraie discussion, c'est pour l'Europe, et j'en finis là, la vraie discussion pour l'Europe, c'est que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup à perdre aujourd'hui, c'est très périodisé ce que je dis. Qu'on ait beaucoup à perdre aujourd'hui du départ de la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne a beaucoup tiré vers le bas l'Union européenne. Elle a tiré vers le bas pour tout ce qui concerne les régulations sociales. Elle a précipité l'entrée de l'Est au sein de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas les faire rentrer, hein, mais les faire rentrer aussi vite et les faire rentrer sans les préparations minimum a totalement basculé les majorités en Europe. Et enfin, l'Angleterre a beaucoup tiré vers le bas en matière de déréglementation
bien
financière.
Sûr, la libéralisation, voilà. On est bien d'accord. Une question d'Annabelle Grenier.
Effectivement, oui. On dit souvent que la City, elle est peut-être aussi le plus grand paradis fiscal de l'Europe.
Mais bien sûr. Les Panama Papers à côté, c'est de la rigolade. Je veux dire, la quantité d'argent noir ou pas noir d'ailleurs, hein, qui se traite et se retraite à Londres est incomparablement plus grand que ce qui se fait dans les paradis fiscaux officiels, si je peux dire. Bon, et ils risquent de perdre ça.
Madame Nicole Fontaine, pourquoi voulons-nous, enfin disons c'est un outré collectif, hein, que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, effectivement, ces Anglais, pour qu'on soit à ce point attaché à ce qu'ils restent?
Ah ben attendez, je constate avec plaisir que Benjamin Coriat pourrait signer notre livre. Que vous êtes tout
sur
à
ces
fait...
aspects, il semble qu'il est d'accord, oui.
Absolument. Bon, alors je crois qu'il faut voir les choses en face. Nous n'avons les uns ni les autres aucune hostilité, bien sûr, à l'égard des Britanniques, je tiens à le dire. Personnellement, j'ai, comme chacun, des excellents amis britanniques. Au Parlement européen, bien sûr, j'ai coopéré avec des Britanniques de grande valeur, et je pense notamment à mon secrétaire général, Julian Priestley, qui était un Britannique, et Lord Plum qui disait je suis né Britannique, je mourrai Européen. C'était magnifique.
C'est joli,
donc il y a de vrais Européens. Mais aujourd'hui, quand on regarde les choses avec lucidité, l'Europe est malade. L'Europe est malade. Et que faut-il faire pour que elle aille mieux? Et on constate que les Britanniques sont entrés sur une grande méprise. Leur seul objectif, c'était les avantages du grand marché. C'est tout. Ils le disaient d'ailleurs très clairement.
Ils les ont obtenus, ces avantages-là, finalement.
Ils ont obtenu ces avantages. Mais comme vous l'avez fort bien dit, toutes les avancées qui les gênaient, soit ils s'en sont exonérés à travers des opting-out, soit ils les ont empêchés.
Absolument.
Et vous avez bien fait d'évoquer la conception libre-échangiste à l'anglo-saxonne, qui a fait que finalement, la conception de la libre concurrence a fait qu'on s'est en quelque sorte tiré une balle dans le pied. Je prends un exemple récent, qui va se passer. Ça va être la renégociation avec la Chine de son statut au sein de l'OMC. La Chine revendique le statut de...
L'économie de marché. De,
voilà, absolument. Et si les Britanniques sont dans l'Union européenne, je sais parfaitement qu'ils soutiendront le point de vue chinois, comme ils l'ont fait d'ailleurs récemment dans le conflit sur l'acier.
Oui, mais alors justement, moi quand je vous disais nous souhaitons, c'était un nous très large, mais ce que je voulais dire c'est que l'Union européenne va quand même très loin dans les concessions qu'elle est prête à faire à David Cameron, qui a négocié avant le référendum pour essayer d'obtenir que le Royaume-Uni reste à l'intérieur de l'Union européenne, un certain nombre d'avantages qui sont quand même assez substantiels. C'est ça veut dire que les voisins européens sont quand même prêts à faire de grosses concessions pour garder les Anglais. Alors que nous apporte-t-il ? Je réitère la question.
Voilà. Je crois que il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que ces avantages en effet sont très importants, et quand on leur a concédé l'exonération de la phrase du préambule, une union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe, ça veut dire que n'importe quelle disposition qui pourrait les gêner, ils pourraient revendiquer qu'elle ne s'applique pas à eux. Alors moi, pour moi, l'Europe est nécessaire, vraiment. Je pense que, vous voyez, elle est malade, mais elle est nécessaire, et peut-être plus que jamais nécessaire. Alors finalement, eh bien, je pense en mon âme et conscience que la sortie de la Grande-Bretagne serait la chance d'une clarification, la chance de repenser l'Europe, ou comme vous le dites, une Europe nouvelle, et de permettre aux pays, aux autres États membres qui le souhaitent, d'aller plus avant dans une Europe politique
européenne. Annabelle Grelier.
Alors ma question, elle est pour vous deux en fait. Qu'est-ce que on peut répondre à ces arguments lorsque on entend l'élite européenne est la seule à tirer profit de l'Union européenne ?
D'abord Benjamin Coriat peut-être.
Si vous voulez, il y a deux choses parce que c'est pour expliquer la position du Royaume-Uni par rapport à l'Europe. En Europe, on a deux choses. On a fait un marché commun. Qui est devenu ensuite un marché unique, et il y a des politiques communes. Bien, progressivement, on a bloqué les politiques communes en faveur de l'élargissement du marché unique. Et ça, c'est exactement ce que veut la Grande-Bretagne. Alors, à partir d'un certain moment, je dis bien à partir d'un certain moment, parce que c'était pas vrai du temps de De Gaulle et Adenauer, et c'était pas vrai du temps de Helmut Kohl et Giscard d'Estaing, par exemple, ou même du temps de Mitterrand. Aujourd'hui, il y a un espèce d'accord entre Madame Merkel et l'Angleterre. Merkel, elle est fixée sur un ordolibéralisme consistant à empêcher la politique économique pour n'avoir que des règles d'automaticité. C'est les fameux 3% de déficit budgétaire, 60% d'endettement, qui empêchent pratiquement toute politique économique, avec des règles d'équilibre budgétaire. Ça convient très bien à l'Angleterre parce que c'est la paralysie de la politique économique. Donc, en fait, le grand défenseur de la présence de l'Angleterre dans le marché commun et dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne.
On n'a pas l'impression que François Hollande soit radicalement opposé au maintien de
Royaume-Uni. François Hollande, il n'est pas radicalement opposé dans la mesure, l'Europe. Il faut bien dire, où il est de fait, et j'ai presque envie de dire par absence de vision, rallié à la vision allemande. Je vous rappelle quand même que François Hollande nous avait annoncé qu'il ne signerait pas le traité
budgétaire renégocier le traité,
et qu'il l'a signé. Bon, donc, c'est une vision allemande qui domine l'Europe. Aujourd'hui, je répète, ça n'a pas toujours été comme ça. Et cette vision allemande s'accommode parfaitement bien d'une vision libérale à l'anglaise. Voilà, donc je pense que c'est la situation dans laquelle on est. C'est la raison pour laquelle je partage tout à fait le point de vue que la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, va créer un choc, va nous mettre devant nos responsabilités, et je pense
enfin,
que
voilà, risque de créer,
sera-t-on capable de saisir cette opportunité ? C'est pas sûr, parce que comme vous l'avez dit vous-même, et je suis d'accord avec vous sur ce point, le choc du référendum de 2005 n'a servi à rien, n'a servi absolument à rien. Alors peut-être que ça servira à rien, mais je suis pas sûr que ça servira à rien, parce que l'Europe va tellement mal, et le choc là-dessus, va forcer à, ouais, à prendre des décisions.
Ce sera un vrai choc.
Ça serait plus qu'un choc, un électrochoc, je dirais. Pour répondre à votre question...
Je n'ai pas répondu à votre question, mais on va laisser Mme Fontaine.
Sur l'élite européenne, est-ce que c'est une... Je crois qu'il y a, moi je dirais qu'il y a deux choses, deux raisons. Tout d'abord, un problème de communication. Bon, l'Europe, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Pour expliquer le fonctionnement des institutions européennes, le qui fait quoi, le.
Rien que le nombre d'institutions.
Et nous n'avons, à mon avis, pas fait suffisamment preuve de pédagogie, d'explication, de ce qui fait que c'est resté finalement compréhensible malheureusement à disons une élite entre guillemets. Bon, c'est une première réflexion. Mais surtout, je pense que ce qui est le plus grave, la plus grave lacune pour moi, c'est l'absence d'Europe sociale.
Oui, bien sûr.
L'absence d'Europe sociale, que fait l'Europe pour lutter contre le chômage, le chômage des, notamment le chômage des jeunes, qui est un véritable fléau. Oui. Que fait l'Europe pour relancer la croissance et pour cela est resté sans réponse et je pense que
l'absence d'harmonisation sociale.
Oui. Hein.
Et alors quand on dit d'harmonisation sociale, il faut pas faire peur à nos auditeurs. On va pas dire qu'on va faire le même SMIC pour tous, hein, mais on va dire simplement des choses de type tous les pays européens doivent assurer un SMIC de l'ordre de, on va dire, 70% du salaire médian. Voilà, oui. Donc on va garder les différences. Hein, parce que souvent on nous dit, ah mais vous rêvez, vous voulez...
Oui, on n'a pas tous les mêmes niveaux de vie.
En Grèce et en Allemagne.
On peut trouver, en effet, oui.
Bien sûr que non. L'harmonisation, c'est pas ça. L'harmonisation, c'est aller progressivement vers de la convergence. Quand on a voulu faire les critères de convergence de Maastricht, on les a fait, hein. Mais on s'est bien gardé d'introduire l'harmonisation sociale et d'introduire l'harmonisation fiscale.
Oui, justement, c'est la même chose pour l'harmonisation fiscale.
Parce qu'on ne peut pas convivre en Europe avec 34 à 36% d'impôts sur le revenu en France ou en Allemagne et 12% en Irlande. C'est totalement impossible.
Ouais. Mais donc... alors, juste pour rebondir quand même sur la question d'Annabelle qui concerne les élites, moi, je suis quand même très frappée quand on entend M. Longworth au début, donc patron quand même de la Chambre de commerce, merci, voilà, de la Chambre de commerce britannique, qui dit l'Europe, finalement, c'est la corruption, c'est les multinationales qui pilotent tout, c'est la corruption.
C'est l'establishment politique.
Ce sont quand même des accusations extrêmement fortes, alors que lui est quand même bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est à ce point corrompu? Enfin, Madame Fontaine, je trouve ça... Moi, ça m'a frappé quand même. Il est extrêmement virulent, non?
Oui, le mot corruption est un mot excessif. En revanche, le poids des lobbying
est immense.
Mais pas seulement à Bruxelles, quand même. Oui, seulement à Bruxelles.
Et spécialement fort à Bruxelles. Spécialement
10 000
fort.
Lobbyistes. On recense 10 000 lobbyistes permanents à Bruxelles. Et avec ce sentiment, et c'est très intéressant parce que, comme vous l'avez pu le voir, ce livre, nous l'avons rédigé avec la collaboration de jeunes. D'étudiants de ESCP Europe qui ont participé et apporté leur contribution avec une motivation et vraiment un talent tout à fait extraordinaire. Et je tiens à dire, sans aucune censure, on a vraiment repris totalement leurs propositions, leurs réactions, tout ça, c'est très intéressant. Et notamment, ils avaient évoqué le poids des lobbying, en disant on a vraiment le sentiment que certaines décisions se prennent sans qu'on sache même par qui elles sont influencées, et ça nous donne un sentiment d'opacité. Et puis ils ont aussi appelé de leur vœu que désormais la construction européenne se fasse en étroite association avec les citoyens. Et ça, je pense que c'est de ça dont nous avons le plus souffert, c'est certainement.
Non, je voulais donner juste quelques exemples de la circulation des élites de l'Union européenne vers les grandes entreprises. Et c'est vrai que c'est stupéfiant. Monsieur Bangemann, qui a été vraiment une grande figure des télécommunications et des nouvelles technologies en Europe, est passé dans un grand groupe de télécoms. L'ancienne commissaire à la concurrence, elle vient d'être recrutée chez Uber. Elle sert la propagande d'Uber. D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi certaines actions contre Uber qui avaient été engagées au sein de la commission ont été bloquées. Aujourd'hui, on le comprend mieux. Bon. Donc, je veux dire.
Mais enfin, bon, c'est... M. Macron vient de l'univers de la banque, il y retournera peut-être après son poste ministère. Enfin, je veux dire, c'est
oui,
quand même
pas
spécifique.
C'est pas ce qu'on fait de mieux. C'est pas ce qu'on fait de mieux.
Non, bien sûr, mais ça existe, c'est... je pense honnêtement.
Oui, ça existe. Mais en Europe, je crois qu'il y a unanimité, hein, sur le fait qu'il y a une présence des lobbyistes, et ça se voit dans un certain nombre de décisions sur l'écologie, sur la chimie, sur la finance, etc., qui est anormalement élevée. Et c'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça.
Et puis, on a quand même l'impression que, effectivement, les multinationales tirent leur épingle du jeu quand les PME de chaque pays ont l'air d'être beaucoup plus en difficulté, non ?
Alors, justement, l'un des regrets, enfin, vous voyez, l'une des raisons de ce désamour des peuples à l'égard de l'Europe, ce sont des attentes déçues. Et on n'a pas suffisamment aider, accompagner les PME. Il y a un gisement formidable d'emplois. Bon, on s'est contenté de vœux pieux. Le Small Business Act, finalement...
Il est dérisoire, oui.
Oui, dérisoire. Vous avez employé le mot, je n'osais pas le dire. Mais c'est vraiment très, très dommage, voyez-vous. Alors, on attend l'Europe. Et les citoyens ne trouvent pas l'Europe là où ils voudraient la trouver.
Oui. Mais là, oui, j'allais dire, non, mais on peut continuer là-dessus, mais on voulait quand même évoquer la question de l'immigration avec Annabelle.
Allez-y,
hein, donc voilà, parce que c'est bien quand même l'un des cœurs, malgré
bien
tout,
sûr,
de
bien
ce
sûr.
Référendum. Je vais poser une question excessive, mais enfin, est-ce que la Grande-Bretagne est devenue raciste ? Je suis désolée de le dire comme ça, ou archi-xénophobe, parce que malgré tout, il y a beaucoup de présence étrangère, même de l'Union européenne, au sein de la Grande-Bretagne,
oui.
Et ces immigrés leur ont apporté énormément depuis quelques années.
Oui, mais si vous voulez, moi, je vais tourner la question différemment. Donc, qu'il y ait eu et qu'il y a une réaction, on va dire, xénophobe, bon, voilà, ou en tout cas anti-immigré en Grande-Bretagne, bon, c'est certain. Une partie du référendum se fait là-dessus. Ce qui est malheureux, c'est que c'est pas propre à la Grande-Bretagne. Hein. On a vu ça, notamment à l'Est, hein, du côté de chez Orban, en Hongrie, en Pologne, etc. Moi, ce qui me fait problème, je vous le dis très honnêtement, ce qui me fait problème, c'est que l'Union européenne a cédé aux demandes de Cameron. C'est-à-dire que l'Union européenne a dit « Oui, vous pouvez vous asseoir sur l'une des libertés fondamentales, qui est la liberté de circulation, et vous pouvez ne pas payer les prestations sociales que vous devez aux immigrants européens.
Oui. »
C'est ça qui est inquiétant.
C'est parce partie que des concessions que j'évoquais tout à
l'heure.
Mais
bien entendu, oui. Que dans la situation qu'on a connue, il y ait une poussée, on va dire, xénophobe. Bon, c'est dans l'ordre des choses. Ensuite, c'est la responsabilité des hommes politiques, de l'Union, etc., de la contenir, de trouver des solutions, de calmer le jeu, ce qui demande du temps. Bien. Mais qu'on commence par céder pour permettre à Cameron de rester, je veux dire, si on se tire une balle dans le pied comme ça, comment vous voulez qu'on trouve une solution ? C'est ça qui m'inquiète.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, lorsque certains prétendent que, disent que si les Anglais restent, eh bien, ma foi, ça sera, l'Europe sera sauvée, mais pas du tout.
Absolument.
Parce que beaucoup d'autres États membres demanderont à bénéficier des mêmes concessions. On ne voit pas pourquoi la Grande-Bretagne serait la seule à bénéficier de ces concessions.
On n'a plus qu'une trentaine de secondes, mais si l'Angleterre s'en va, l'Union européenne risque quand même d'avoir des problèmes. Je parle d'autres pays qui pourraient être tentés, on parle
entendu.
De la Catalogne, etc.
Bah,
la boîte de Pandore est ouverte en quelque sorte.
Les concessions faites sont telles que le Brexit se fasse ou ne se fasse pas, le coût est porté. De toute façon.
Madame Fontaine, votre dernier mot, le coup est porté, la boîte est ouverte.
Oui, le coup est porté, mais je reste néanmoins optimiste et je souhaite qu'il y ait un appel du 24 juin de certains dirigeants européens.
Au lendemain du référendum.
Voilà,
alors.
Qui disent, l'Europe, non, l'Europe n'est pas morte, l'Europe continue et on va ouvrir les grands chantiers et on va enfin les ouvrir avec les citoyens.
Merci beaucoup Nicole Fontaine, Benjamin Coriat d'avoir accepté de participer à ce magazine de la rédaction Brexit, la question qui divise le Royaume-Uni. C'était un reportage que nos invités ont beaucoup loué, d'Annabelle Grenier, réalisé par Annie Brault à la technique. Ce soir, Anthony Thomasson, vous pouvez réécouter cette émission dès demain sur notre antenne à 6h, la podcaster sur notre site franceculture.fr, la commenter également grâce à Abdelhak El Idrissi.